sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Spino et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Anthony Thomasson, réalisation Thomas Beau. Émission spéciale ce soir tout entière consacrée à Philip Roth, l'écrivain américain dont on a appris cette nuit la disparition à l'âge de 85 ans. Nous lui avions consacré le 14 décembre dernier une émission à l'occasion de la publication dans la bibliothèque de la Pléiade d'un premier volume de romans et nouvelles. Nous reviendrons ce soir sur l'œuvre cet immense écrivain avec Clémence Boulot, critique, écrivain, professeur à Columbia, New York, qui sera au téléphone avec nous depuis l'autre côté de l'Atlantique. Elisabeth Philippe, habituée de cette émission, critique à l'Observateur. Lazare Bitoun, enseignant en traduction et littérature américaine à Paris 8 Saint-Denis. Plus maintenant, c'est fini, me fait-il signe. Bon, je vais revoir ma bio. Écrivain toujours, traducteur toujours, notamment de Opération Shylock, une confection, et du Théâtre de Sabbat de Philip Roth. Stephen Sampson est également avec nous, critique littéraire, écrivain, auteur de Corpus Rothy, une lecture de Philip Roth et Corpus Rothy 2, le Philip Roth tardif, de Pastoral American à Némésis, deux ouvrages parus aux éditions Léo Cher et qui publiera à la rentrée, m'a-t-on informé, un roman intitulé « Moi, Philip Roth ». Florent Georgesco, autre habitué de la dispute, est avec nous, critique au monde des livres, et puis Aïssa Tundoy surveillera les fils Twitter et Facebook pour donner à entendre les commentaires que vous pourriez faire sur notre émission. Philip Roth avait arrêté d'écrire en 2010, il semblait en être le premier surpris. Raconter des histoires, cette chose qui m'a été si précieuse durant toute mon existence n'est plus au cœur de ma vie, expliquait-il à Libération en 2017. C'est étrange, ajoutait-il, jamais je n'aurais imaginé qu'une chose pareille puisse m'arriver. Il a inscrit en tout cas jamais sur la carte de la littérature mondiale la ville de Newark, et où il est né, plus précisément encore le quartier de la classe moyenne juive de Wickhake, où il a grandi. Rappelons qu'il a été pour la première fois édité en 1959 avec Goodbye Columbus, un roman composé de 6 nouvelles qui lui vaut son premier National Book Award. 10 ans plus tard, avec Portnoy et son complexe, Roth connaît la célébrité mondiale. Le livre s'est vendu, ai-je lu, à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde. On le connaît aussi aujourd'hui sous un autre titre, La plainte de Portnoy, donc dans ses traductions révisées en Pléiade. Traduction qui fait évidemment forcément débat. La judéité, le désir sexuel, le réel, la fiction, voilà quelques-uns des piliers de l'écriture et des thématiques de Philip Roth, sans oublier l'humour, évidemment. Dans Portnoy, celui-ci déclare à son psychanalyste « Avec moi, tout se passe au grand jour, la disproportion et le mélodrame, voilà mon pain quotidien, les coïncidences des rêves, les symboles, les situations atrocement risibles, les banalités étrangement menaçantes, les accidents et les humiliations, les coups de chance ou de malchance bizarrement impartis que les autres subissent les yeux fermés, je les accueille, moi, avec les yeux grands ouverts. » On va écouter, pour commencer, Philip Roth lui-même, une petite archive de 1999 au micro d'Alain Finkielkraut sur France Culture. Et il revient justement sur ce moment où il est tout d'un coup devenu célèbre.
J'ai quitté New York en 1972 et ce pour plusieurs raisons. Enfin, la raison principale n'était ni politique, ni historique, ni sociale, c'était une raison personnelle. Il faut voir qu'en 1969, j'ai été tout d'un coup propulsé, enfin, disons, ma chair humaine s'est trouvée propulsée dans la machine à célébrité pour en faire un hamburger de célébrité, avec Portnoy. Portnoy et son complexe qui est sorti donc en 1969. Et là, ma vie a complètement été bouleversée. J'avais pas besoin de changer ma vie. J'aurais très bien pu rester sur place, mais j'ai été quelque peu déstabilisé par l'accueil qui a été réservé à ce livre et ma transformation en une personne célèbre. Alors, je n'étais pas célèbre comme Janis Joplin ou comme Jimi Hendrix, mais c'était une toute petite célébrité, une petite chose littéraire, de rien du tout. Mais quand même, cette petite chose de rien du tout, en raison de la nature de l'ouvrage quand même, m'a amené à un statut, même pas provisoire, un véritable statut de vedette. C'était le vedettariat. Et alors, deux choses se sont produites. D'abord, j'ai perdu l'anonymat, mais surtout j'avais le sentiment de ne plus être anonyme. C'est-à-dire que je pouvais me balader dans New York pendant des kilomètres sans qu'on me reconnaisse. Et encore une fois, j'étais ni Jimi Hendrix, ni Janis Joplin, et j'étais pas non plus Richard Nixon ou Lyndon Johnson. Cela étant, je me sentais mis à nu. C'est-à-dire que ceci était lié à la façon dont le livre avait été reçu, et puis traduit en culture populaire, en folklore populaire. Je suis devenu un personnage folklorique, en quelque sorte, et ce personnage n'avait rien à voir avec moi. Ce qui fait que j'étais l'auteur de Portnoy et son complexe, mais je suis devenu Portnoy moi-même. Et c'est ainsi que les gens disaient des choses amusantes à mon sujet lorsqu'ils me croisaient dans la rue. Des choses tout à fait innocentes, bien sûr. Mais enfin, les gens me disaient, m'interpellaient par le nom de Portnoy, puis bon, moi je répondais de manière amicale, parce qu'après tout, je suis quelqu'un de très gentil. Mais ça ne me plaisait pas. Ça ne me plaisait pas, je n'aimais pas être observé. Et puis, c'est difficile à expliquer, mais je ne peux ni défendre, ni d'ailleurs condamner ma réaction à cela. C'est comme ça que je sentais les choses. Ce qui fait que je me suis retiré.
Ainsi parlait Philip Roth en 1999 au micro d'Alain Finkielkraut sur France Culture. Roth qui a souvent dit ou écrit son aversion pour les biographies, qui fait dire à un de ses personnages dans Exit le fantôme, une biographie c'est une licence d'exploitation d'une vie. Alors Roth contre Sainte-Beuve, mais Roth sans cesse ramené à la question de l'autobiographie. Autant commencer par là, Elisabeth Philippe.
Oui, autant commencer par là. Alors je crois que sur la fin de sa vie, Philip Roth envoyait énormément de messages à son biographe officiel, dont j'ai... Là, tout d'un coup,
oublié le... J'ai oublié son prénom.
Oublié le nom.
Ross. Non, t'as un autre nom.
C'était Blake Bailey.
Blake Bailey, exactement.
Il a commencé à travailler avec... Enfin, il a eu deux biographes, oui.
Voilà, il travaillait avec lui, mais c'est vrai que cette confusion, en tout cas, ce brouillage des repères entre fiction et réalité, le malentendu que cela a engendré, ça a suivi Ross quasiment toute sa vie, en tout cas dès le départ, et occasionné des réactions parfois très 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 vives. Et lui-même en a joué, puisque généralement aux attaques qui étaient faites contre lui, il répondait avec les armes qui étaient les siennes, à savoir la littérature et la fiction. Et je crois que le point culminant de sa réponse à ce type d'attaque, ou en tout cas cette confusion, je pense qu'il l'amusait en même temps qu'il devait un peu mépriser aussi entre réel et fiction, ça a été dans Opération Shylock où un personnage ou deux personnages même portent le nom de Philip Roth, et là on a Philip Roth s'amuse vraiment avec ses codes littéraires, avec la fiction, le réel, dans une espèce vraiment un dispositif vertigineux, formel vertigineux, et voilà, c'est un des plus grands livres de Roth d'ailleurs, Opération Shylock, qu'il a écrit, il me semble, après un épisode assez dépressif, et notamment une addiction à un somnifère, et qui peut-être aussi expliquer cette transe et ce vertige justement dans la forme d'Opération Shylock.
Alors ça tombe bien puisque traducteur en France d'Opération Shylock est assis à côté de vous, c'est Lazare Bitoun. Justement cette question du réel et de la fiction, de la fiction qui rentre dans le réel chez Roth, comment est-ce que vous voyez cela, vous ?
La littérature américaine d'une manière générale, c'est une littérature provinciale, c'est une littérature d'individus. On a pris Hemingway pour Nick Adams. On a pris Saul Bellow pour Augie March. On prend l'écrivain pour une de ses créatures, à chaque fois. Et ça marche à tous les coups. Faulkner, tout le monde est persuadé que c'est un pauvre type qui vit dans le Sud, etc., etc. Voilà. Et Philip Roth, alors, sa province, c'est pas Newark seulement. C'est Newark, mais ce n'est pas que ça. C'est le juif urbain Newark-New York. Tout ça, ça ne fait qu'un tout, d'une certaine époque, en plus, et à un moment donné de l'histoire.
Et alors, deuxième génération d'immigrés, voilà, en plus.
La deuxième génération, il a toutes les caractéristiques, personnellement, il a toutes les caractéristiques de sa génération. Son père, agent d'assurance, qui aurait pu être agent immobilier, courtier, je sais pas quoi, enfin n'importe quoi. Lui qui fait des études, comme tout le monde, dans une université pas plus mal, c'est pas Harvard, c'est pas Princeton, c'est l'université du Michigan, je crois, ou de l'Illinois.
C'est Bucknell.
Non, Bucknell dans un premier temps, et Chicago dans un deuxième temps, qui ne sont pas des grandes universités, mais Bucknell c'est un bon college, c'est une, mais bon, sans plus. Et il a tous les stigmates, personnellement, il a tous les stigmates de sa génération. Et tous ces héros ont ces stigmates-là, à commencer par le premier, de la première nouvelle de Goodbye Columbus, dont le nom m'échappe tout de suite.
Stephen Sampson, non,
je crois qu'on est vers vous. Quelle est la question?
Le premier personnage.
Ah oui, c'est... Oh là là.
Ça y est, on ne collera pas souvent,
j'ai rencontré Brenda le jour où elle m'a demandé de tenir tenir ses lunettes, et à commencer par lui, qui va être... C'est ce même personnage qu'on va retrouver tout le temps, et effectivement, à un moment donné, ce personnage-là s'appelle Philip Roth, dans Opération Shylock.
Alors pour vous, justement, Stephen Sampson, on a souvent dit, alors, même si Ross s'en défendait plus ou moins selon les époques, peut-être moins à la fin de sa vie, que notamment Nathan Zuckerman, qui revient dans nombre de récits, était un double. Comment est-ce que vous voyez cette question-là, vous ?
Oui, bon, il y a deux écoles. Moi, je suis plutôt de l'école qui c'est en effet une double. Hein, donc, il y avait même un critique du New Yorker qui a dit que Roth écrivait des romans autobiographiques à clé.
Ouais.
Et que c'était une sorte de jeu où, à la fois, il faisait tout pour que le lecteur confonde le personnage avec lui. Après, il jouait l'innocent et disait, mais non, pourquoi on fait ça? C'est pas moi. Mais tout, c'était un jeu. Il était ludique. Donc, le fait que c'était un double, ça n'enlève rien. Je suis d'accord en partie avec Lazare. En même temps, je pense que cette idée de confondre le personnage avec l'auteur, on trouve ça ailleurs. Le cas de Welbeck, par exemple, on confond ses personnages avec l'auteur. Donc, je pense que c'est plutôt une question d'un genre littéraire qui est confessionnel. C'est même assez répandu en France. On remonte à Rousseau. C'est pour ça que, pour moi, Roth, il ressemble plus à une certaine littérature européenne qu'à la littérature américaine en général.
On reviendra sur ces notions-là et sur cet enracinement de l'écriture de Ross, mais pour compléter ce tour de table, Florent Georgescu.
Oui, une des choses les plus passionnantes pour moi chez lui, c'est que il est le plus génial autobiographe qui soit, si on veut, mais à travers un tel jeu qu'il est aussi le contraire exact, qu'il perturbe totalement l'étiquetage dont Lazare Bitoun parlait, le provincialisme américain est, disons, un peu dérouté face à lui, parce que la distribution de l'autobiographie dans ses livres est en éclat et en permanence remodelée, et parce que une des choses les plus admirables chez lui, pour moi, c'est l'art de la surprise formelle, l'art de la surprise dans les sujets, dans les directions, tout. On peut avoir l'impression aujourd'hui que tout est clos, enfin c'est clos depuis quelques années puisqu'il avait clos tout seul, sans mourir, son œuvre. Je vois défiler, si je pense à l'ensemble de ses livres, une sorte de jeu permanent de boîtes de formes absolument différentes dans lesquelles on trouve à chaque fois, non seulement d'une boîte à l'autre, des objets différents, mais dans chaque boîte, ce qu'on ne devait pas attendre. Donc on finit par trouver, par exemple, deux Philip Roth, dont un faux. Ou deux faux, peut-être. Un Zuckerman qui est Roth et qui n'est pas lui. Il l'a quand même assez bien dit, à quel point d'ailleurs il avait fait une sorte de portrait robot d'un certain milieu, c'est ce que vous disiez aussi, Lazare, sur l'ancrage sociologique, mais en même temps qu'il fait ça, il fait autre chose, il passe... J'ai passé une petite partie de la journée, hélas, à regarder sa revue de presse, pour voir un peu à travers le temps sa réception. C'était très amusant de voir en France, où on a d'autres provincialismes et d'autres sens de l'étiquette, la perturbation que certains de ses livres ont apporté. Je pense à Pastorale américaine, par exemple. J'ai vu beaucoup de contorsions chez les journalistes pour dire, mais enfin, rassurez-vous, ce n'est pas le roman, grand roman classique que ça peut donner l'impression d'être. Non, on retrouve les perturbations formelles, etc. Sauf qu'il a aussi fait, à travers des livres comme Pastorale américaine, du grand roman américain classique. On ne pouvait l'attendre nulle part, y compris dans l'inattendu, en quelque sorte. Il pouvait aussi surprendre par la linéarité, autant que par le baroque infini du théâtre de Sabbat, par exemple, qui est un de ses plus grands livres.
On y reviendra également. Peut-être entendre pour une première fois Clémence Bolloux, qui est en ligne avec nous. On a fait bon nombre d'émissions ensemble sur cette antenne, Clémence, sur quantité d'écrivains. Et puis, Clémence Bolloux est partie s'installer à New York, on la comprend. Vous y êtes professeure au département de religion de Columbia, toujours une lectrice précise, attentive, en même temps qu'une auteure, vous-même. Peut-être premier sentiment, tout d'abord, Clémence Bolloux, peut-être personnel, sur la disparition de Philip Roth.
Oui, bonjour Arnaud. C'est assez difficile de m'exprimer aujourd'hui. J'ai appris la nouvelle hier soir. Et comme vous l'avez dit, j'ai quitté la France et j'ai trouvé une famille d'adoption aux États-Unis. Et Norman Manea, l'écrivain roumain, qui était l'un des meilleurs amis de Philip Roth, donc depuis 10 ans, ma vie et tous les événements marquants ont été passés auprès de Philip et Norman, notamment l'élection de Barack Obama. Voilà, donc c'est... je suis désolée, je vais essayer d'être un peu moins émotive, mais c'est une disparition qui est à la fois personnelle et puis la disparition d'un grand témoin, d'un grand romancier et de quelqu'un dont la voix était plus que jamais nécessaire. Dans ces époques de Trump, une de mes premières douleurs quand j'ai réalisé que c'était pas une erreur, que cette nouvelle n'était pas un double de Philip Roth qui faisait une mauvaise blague, c'est de penser qu'il est mort sous Trump. Et c'était véritablement quelque chose qu'il dévorait. On a beaucoup parlé du complot contre l'Amérique comme une œuvre de pressionte, et on en avait parlé il y a peu de temps, et il était encore plus dévasté de l'Amérique, de l'état de l'Amérique dans lequel nous sommes aujourd'hui, parce que disait-il, Trump est la somme de ses nullités, alors qu'au moins Lindbergh avait un peu de courage.
Oui, pour rappel, le complot contre l'Amérique, Clémence Bolloux, c'était cette dystopie qui voyait Charles Lindbergh accéder à la présidence des États-Unis, donc dans son temps, en 1940. C'était quoi dans
40,
le texte
40,
40 hein, oui. Il me semble, voilà. Donc un Lindbergh dont on sait par ailleurs son l'antisémitisme et les idées sympathies nazies. Mais alors peut-être justement, Clémence Bolloux, dans la contre-vie, Maria demande à Nathan Zuckerman, tu peux pas les oublier un peu, t'es juif. Et Nathan lui répond, non, ce serait trop facile, ils sont inoubliables, c'est même impossible, ils font retour incessamment, ils sont les fantômes de la fiction. D'éternels revenants dans des romans dont les intrigues sont construites comme le dialogue jamais conclu d'un écrivain, entre parenthèses juif américain, avec lui-même sur le sens de sa pulsion ou de sa passion gidéographique. Mais très tôt, on ne l'a pas encore abordé tout au long de sa carrière, beaucoup ont taxé Philip Roth d'antisémitisme. Comment est-ce que vous analysez cela, Clémence Bolloux, et puis on va en parler aussi dans ce studio, et quelle réponse apporter à ces accusateurs?
Je pense que c'est faire peu de cas de l'intelligence absolument vertigineuse de Philip Roth et de cette... on a parlé de ses doubles. Il y a aussi quelque chose d'irrépressiblement juif. Alors, il ne voulait pas être défini comme juif, mais il y avait quelque chose de l'universel, de l'universalité du judaïsme qui vibrait dans chacune de ses phrases. Et en même temps, ce Newark qui était, effectivement, qui pourrait apparaître comme provincial, était pour lui le gage de... une cage dont il avait voulu partir. Donc il y a encore, et puis il y a énormément d'affection. Enfin, l'œuvre de Philip Roth a une rage, effectivement, qu'on retrouve dans Portnoy et son complexe, ou la plainte de Portnoy. Mais le dernier livre, Nemesis, par exemple, est un livre d'une immense affection pour ce quartier de Wickwarrick, Et c'est vrai que sur la fin, enfin les derniers livres, puisque Némésis en 2011 était son dernier livre, il y a une grande affection en fait, une quelque chose de d'apaisé en fait qu'on retrouvait beaucoup chez Philip Roth. Et c'est vrai que l'aspérité parfois à bien des égards qu'on pouvait sentir, ou en tout cas cette âpreté, a été vraiment une sorte de... Enfin, les derniers livres sont beaucoup plus tendres. Voilà. Et on en avait parlé avec Norman Manea. Norman Manea, qui est donc ce grand écrivain roumain, qui a une certaine influence sur lui, hein, justement au tournant des années 90-95. L'œuvre de Philip Roth a aussi beaucoup d'accent d'Europe centrale. Il a été aussi éditeur d'une collection de voix d'Europe centrale, enfin d'écrivains d'Europe centrale. Appelfeld aussi a joué un grand rôle. Mais cette façon, en fait, d'ouvrir le regard et d'ouvrir... De passer de Newark au monde est quelque chose qu'on trouve comme arc de son œuvre.
Vous restez avec nous, hein, Clémence Boulouk, mais réaction, Lazar Bitoun tout d'abord.
Je suis toujours gêné quand on emploie le terme d'antisémitisme à propos de Philip Roth. Je trouve ça tout à fait excessif et inapproprié.
Antisioniste, conviendrait mieux ?
Même pas. Non, c'est un terme qui lui a été accolé par certains critiques.
Bien sûr.
Que personnellement je récuse totalement. Je pense qu'il n'y a pas plus juif que Roth, et qu'il n'y a pas plus amoureux de sa condition de juif et des juifs que quelqu'un comme Philip Roth. Ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il a trahi les secrets de la tribu. C'est ça le problème. Il a dit tout haut ce que tout le monde dans la tribu savait, mais qu'à l'extérieur, on ne savait pas où on savait. Il a dit que Brenda, une fille juive de bonne famille, dont le papa est plombier et vend des toilettes, va porter un diaphragme. Et c'est pas possible, les filles juives sont toutes vierges, c'est bien connu. Voilà. Il a dit des choses comme ça, et c'est pour ça qu'on lui en a voulu, et ça a été très violent. Il a dit que dans l'armée américaine, certains soldats allaient voir leur sergent juif, allaient voir leur sergent qui était juif, pour lui demander de ne pas les envoyer au front pour essayer de négocier quelque chose. On lui en a voulu d'avoir dit ça, mais ça n'est en aucune manière de l'antisémitisme.
Florent Georgesco.
Un jour d'ailleurs, il y a eu une cérémonie à la grande synagogue de New York en hommage à son œuvre.
Absolument.
Et on y a lu des extraits de Portnoy et son complexe qui
l'a réjoui profondément.
De la polémique que le roman a suscité.
Mais ça c'était en 2005 ou 3.
Oui, enfin, oui, c'est assez récent.
Voilà.
Et il a commenté cet événement en disant « ça y est, j'ai gagné ». J'ajoute juste un petit mot sur Norman Manea, car en effet leur amitié est une très belle chose. Juste pour dire que Norman Manea a dit que son désir, sa volonté, était d'être enterré à côté de Ross pour pouvoir continuer la conversation. Et je trouve ça admirable et je crois que ça les définit assez bien tous les deux.
C'est même une nouvelle de Tchekhov.
Oui. Elisabeth Philippe.
Non, pour revenir sur la colère qu'il a pu susciter dans la tribu, comme vous le disiez, Lazare. Et effectivement, et ça rend d'autant plus surprenant, en tout cas, la lecture de Portnoy et son complexe dans une synagogue, parce qu'au moment de la sortie du livre en 69, si je ne m'abuse, ça avait quand même suscité la colère, une très très vive colère, voire la fureur de certains rabbins. Et je crois même que Gershom Scholem avait dit que Portnoy était un livre plus dangereux pour les juifs que le protocole des sages de Sion. Donc on était quand même dans des attaques d'une virulence
et
d'une violence. Donc c'était fou, mais quand on relit Parlons Travail, je pense que le texte de Ross sur les écrivains qu'il aime et qu'il a rencontrés, parmi lesquels Primo Levi, Aaron Appelfeld, Milan Kundera,
Malamud,
bien sûr, Bernard Malamud, immense écrivain qui était un des maîtres reconnus de Philip Roth. Moi, je maintiens que c'est un immense écrivain, malgré les dénégations de Lazar Bitoun.
Ah, merci de l'avoir dénoncé.
Pardon, je suis confuse. Bref, où en étais-je? Non, mais on voit le lien dans ce livre Parlons Travail. On voit très, très nettement, effectivement, le lien et l'amour que porte Philip Roth à toute cette tradition. Et ce qui est amusant, c'est que dans un des textes de ce livre, il y a notamment une lettre qu'il adresse à Mary McCarthy, et dans laquelle il lui dit qu'il est connu pour son antisémitisme virulent. Donc il y a aussi Clémence Boulouk parler d'arc. Là aussi, on voit un arc se dessiner qui est totalement fou, mais qui est bien, je trouve, révélateur. des outrances, des excès qui se trouvent dans l'œuvre de Philip Roth et qu'elle déclenche aussi chez ses critiques et chez ses lecteurs.
Stephen Sampson ?
Oui, je suis assez d'accord avec tout ça. En même temps, j'ajouterais que je cite Henry Miller qui disait que personne n'est plus antisémite qu'un juif. Donc,
la haine de soi.
Et voilà. Et puis, il y a beaucoup
de,
comme disait Clémence Boulot, qu'il y a beaucoup de rage dans le, de Roth, et c'est d'ailleurs une de ses qualités primaires, et cette rage est beaucoup dirigée contre les juifs. Ce qui est normal parce que c'est les juifs qui connaissent le mieux. Donc,
Et puis, ça, même sa rage, même sa haine ou sa divulgation obscène de secrets de la tribu sont une manière pour lui d'approfondir aussi ce qu'est la judaïté. La judaïté, c'est justement cette ironie pour lui. C'est aussi cette instabilité identitaire, cette difficulté à être sur un sol, à être un seul Philip Roth, à être l'enfant de Newark et pas du reste du monde, à être américain et pas aussi d'Europe centrale. On pourrait revenir, d'ailleurs, Clémence Boulouk avait raison de signaler cette importance de l'Europe centrale dans sa vie. Enfin, c'est, tout cela est être juif. D'où aussi quelques difficultés, peut-être, avec la question sioniste, avec la question du territoire. Mais est-ce que ça ne fait pas partie aussi du sionisme que cette interrogation et cette difficulté à relier le territoire et le cosmopolitisme foncier dont il est une des figures les plus, pour moi, les plus excitantes.
Un désir de perfection pour les gens de sa tribu qui l'a poussé à dire ça. C'est pas vraiment de la critique. C'est vous n'êtes pas parfait, j'aimerais que vous soyez parfait.
Bien sûr, comme sa mère, on voilà, peut le lui dire.
Voilà, c'est ça.
Alors, pour être parfait, faut-il être vierge au mariage? C'est une question posée par Philip Roth.
Parce qu'il faut, en parle tout à l'heure.
Il faut quand même parler de cette question récurrente du désir sexuel masculin. Alors, qui traverse, on peut dire, les 31 ouvrages de Philip Roth. C'est Clémence Boulot qu'on a entendu depuis un petit moment. Cette question-là, soyons du côté de la vie, de la pulsion, enfin, pulsion de vie, pulsion de mort, je ne sais pas, comment vous le voyez?
Juste pour terminer cet arc, je voudrais quand même vous signaler que Philip Roth a été ses docteurs honoris causa du séminaire juif de New York il y a 4 ans.
Voilà.
Et donc, c'était un moment de triomphe, si vous saviez, il était tellement heureux de nous annoncer ça en disant, alors là, cette question du désir et cette question de l'inassouvissement, enfin, quelque chose, quand Philip Roth a décidé d'arrêter d'écrire, il y avait un post-it sur son ordinateur qui disait la lutte avec l'écriture est finie, comme si c'était une façon de ne pas, vous voyez, comme un alcoolique qui dit non, c'est fini, j'ai arrêté de, et il a arrêté il a arrêté les femmes en même temps que l'écriture pour être un peu, brut, et je suis intimement persuadée que ni l'un, enfin qu'il n'arriverait à la sobriété ni dans un ni dans l'autre domaine, et c'était l'objet de bien des plaisanteries, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'inassouvissement du désir qui demeure désir. Alors la question effectivement c'est quel est le statut des femmes dans l'œuvre de Philip Roth. Le mouvement de MeToo était évidemment quelque chose qui ne lui plaisait qu'à moitié, ce qu'il a essayé de faire aussi, c'était de montrer justement cet aspect non angélique qui, quand on parle des juifs, le fait traiter d'antisémite, qui pourrait le faire traiter de pornographe ou de, mais cette façon de montrer quelque chose qui est brut, qui est écœurant et comme il le disait récemment encore, c'est pas un pamphlet publicitaire sur la masculinité, la masculinité qui serait bon pour une pub, quoi. Il y a quelque chose d'une absence de compromis qui le pousse à décrire le désir dans tout ce qu'il a masculin et parfois détestable, qui correspond aussi à cet investissement total dans la littérature. Donc, ce désir qui demeure désir et qui sera de toute façon inassouvi et qui reste détestable est aussi un trait typiquement rothien.
Mais là aussi, avec une évolution notable, forcément, dans une aussi longue œuvre, Lazare Bitoun, on a évoqué le théâtre de Sabbat. On est souvent tenté de de dire que Sabat, c'est Portnoy Empire, c'est Portnoy débarrassé de culpabilité, c'est le monstre de Portnoy. Ils ont 25 ans d'écart, hein, ces deux livres. Est-ce que vous le voyez aussi un peu comme cela?
Oui, c'est Portnoy devenu vieux, c'est un peu ça. Mais je dirais que là aussi, vis-à-vis de cette sexualité débordante dans tous les livres, ben là, il a révélé les secrets de la tribu des hommes. Excusez-moi, mais une conversation dans un dortoir de l'armée, il se dit des choses qui ne se disent pas ailleurs. Et là, il a tout révélé, il a mis les choses à plat. Et c'est quand même le travail du romancier, c'est un peu de dire la vérité. Enfin, ce n'est pas d'écrire des articles qui disent vrai, c'est de raconter des histoires qui disent la vérité. Et il a dit la vérité sur le désir de l'homme. Alors, Sabas, oui, c'est un personnage qui a une sexualité pas si débridée que ça, finalement. Enfin, elle l'a été dans un premier temps, à l'époque où il est marin, à l'époque où il a une femme dans chaque port, voire plusieurs. Mais il est d'une fidélité exceptionnelle à sa maîtresse, Drenka.
Jusque sur la tombe.
et jusqu'à ne pas se suicider sur sa tombe. La dernière phrase de ce livre, elle est extraordinaire. Il ne voulait pas se suicider parce que tout ce qu'il détestait se trouvait ici-bas. Quand même, c'est une phrase exceptionnelle.
Stephen Sampson.
Oui, je suis d'accord. J'ajouterais que cette obsession pour la sexualité chez Roth, c'est lié à son intérêt pour le corps, en fait. C'est un romancier très attaché à la biologie. Dans un de ses romans, je pense que c'est La leçon d'anatomie, le personnage Zuckerman dit qu'il aurait voulu écrire un roman qui s'intitulerait l'histoire du corps d'un homme, un truc comme ça.
Il a écrit le sein.
Il a écrit le sein aussi, oui, comme dit
la métamorphose. Exactement. On parlera de Kafka tout à l'heure, homme au sein de sa femme.
Oui, exactement. Et puis dans la tétralogie de Némésis, il y a question de la déférence et de la maladie, qui pour moi, ça fait. C'est d'une certaine manière le même thème que le thème de la sexualité, c'est de regarder le corps de l'homme et dire mais c'est ça la vérité, c'est ça l'aspect le plus profond, on est prisonnier, on est attaché, on est des corps et peut-être on a tendance à oublier ça, donc lui il veut rappeler à ses lecteurs quand même on habite un corps.
Ça, c'est la phrase de Valéry, hein, ce qui est le plus profond en l'homme c'est la peau. Je cite peut-être mal et de mémoire. Mais pour revenir sur Philip Roth et sur la question du suicide, évidemment, qui est extrêmement présente dans le théâtre de Sabas, cette préparation, bon, on a dévoilé la fin, ça y est, on a divulgaché. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore lu, la toute dernière phrase. Mais il y a 4 mois, Philip Roth donnait une interview au New York Times où il disait son grand plaisir à être en vie. Il disait qu'il se couchait avec le sourire et qu'il se levait avec le sourire. Ce rapport à.
Bah, surtout qu'il avait arrêté. En plus, il avait arrêté le boulot. Il avait arrêté cette lutte terrifiante.
Il avait arrêté plus que le boulot, nous a dit Clémence Boulot.
Et il n'avait plus mal au dos parce qu'il ne travaillait plus. Il n'avait plus mal au dos parce qu'il ne travaillait plus. Parce qu'il travaillait debout.
Oui, à cause de ce.
Et une des raisons, pas forcément importante, mais une des raisons pour lesquelles il a arrêté, c'est qu'il ne pouvait plus se tenir debout devant sa table de travail.
Il écrivait sur un lutrin, comme Hugo, comme Victor Hugo.
D'ailleurs, il est mort un 23 mai. Oui. Comme Victor Hugo.
Ah, voilà.
Elisabeth Philippe, heureusement que vous êtes là pour les thèmes astro, c'est peut-être.
je prends un peu plus cher.
Quel est votre avenir
Clémence
si vous mourrez
dit 22, ce qui est vrai. 22, il est mort le 22,
oui.
Le fait est à
22h30. Mais je crois que c'est le 22 mai, c'est moi qui suis.
Il est mort le même jour.
Alors en heure française, peut-être ça marche. Peut-être. Bon, allez, on va trouver ça comme ça. Merci pour la précision, Clémence. Mais non, mais cette question de la noirceur, qui pouvait aussi apparaître quand même très fréquemment, est-ce que la tentation du suicide, ça fait partie seulement pour le coup de l'œuvre, selon vous, Elisabeth Philippe, c'est une question difficile que
alors
je vous pose là.
J'en ai aucune idée.
Je ne sais pas. Je ne pourrais pas me permettre.
Mais je n'ai vraiment pas l'impression que Roth ait pu être quelqu'un de suicidaire à un moment ou un autre.
La vie est trop riche.
Trop belle. Les femmes sont trop belles. Tout change. Chaque instant est une nouvelle découverte.
Il y a tant de choses à détester.
Oui, je ne pense pas un seul instant qu'il ait pu avoir une quelconque pulsion suicidaire.
Clémence Boulouk.
Il y a eu un moment qui était extrêmement difficile après la séparation avec Claire Bloom, qui s'est fait de façon extrêmement, avec beaucoup de tintamarre. Et là, il y a eu un grand moment de dépressif qui explique aussi la prise de somnifères, la prise de médicaments et le côté complètement spéculaire aussi d'opération Shylock. Des pulsions suicidaires, probablement pas, mais une dépression absolument profonde et des épisodes psychotiques presque, oui.
Mmh. Oui. Ah, ce qui nous permet peut-être aussi, quelqu'un voulait intervenir,
Florent Georgesco. Un mot simplement pour, oui. pour enfoncer le clou sur ce que Lazare Bitoun disait sur la vérité. Sur, ouais. C'est quoi cette œuvre? Justement, je ne pense pas qu'on puisse l'attacher à un seul des éléments qui composent son œuvre, et Dieu sait qu'il y en a. Et c'est d'ailleurs une des difficultés de sa réception pour beaucoup, c'est cet inconfort qu'il a toujours suscité dans la critique et même chez les lecteurs parfois, qui aimaient tel livre, telle partie de son œuvre, pas tout. Mais rien n'est jamais le tout. Il n'y a pas de métonymie chez lui. C'est pour ça, le suicide est évidemment dans ses livres, la noirceur est évidemment dans ses livres, et pourtant lui peut être pété le feu pendant qu'il en parlait. Mais parce qu'il s'agit d'arracher la vérité à l'ensemble de l'expérience humaine, de dire tout. C'est une immense machine à décomposer et à recomposer dans tous les sens l'ensemble de l'expérience. On peut se demander parfois, il y a des aspects très autobiographiques, il y a du sentiment, c'était un homme, semble-t-il, très vivant, très intense dans ses sentiments, mais pour autant il y a peut-être toujours cette distance qui fait qu'au fond tout cela n'a pas beaucoup d'importance, mais ça va faire quelque chose dans un livre, ça va faire une page, ça va et il a parlé d'ailleurs de cette distance pour dire la vérité de l'être humain. Son sujet, bien sûr qu'il y a du Philip Roth de sa vie, je veux dire, là-dedans. Bien sûr qu'il y a tout ce qu'il a connu, parce qu'on n'a rien d'autre à raconter. Mais qu'est-ce qu'on vise à travers ça? Je pense que pour lui, ce n'est pas ça. C'est toujours au-delà, une vérité humaine, un universel en ce sens. Toujours particularisé, parce que c'est d'abord un génial conteur, un romancier, donc un homme du détail, un homme de l'incarnation. Mais il s'agit toujours de nous. En fait, il nous parle de nous tous, là, plus que de lui-même, y compris quand il est dans l'extrême détail de ses souvenirs de d'enfance, de sa jeunesse, etc.
Mais à propos de cette vérité, justement, il a écrit dans une série de textes qui s'appelle Explanations, je crois, qu'il faisait des recherches pour écrire, avant d'écrire, parce qu'on ne peut pas écrire à partir de rien. Mmh. Et il disait, je fais un travail de journaliste, je fais des enquêtes, je prends des notes, j'écris des choses, et après, je construis. Et donc, il y a tout un ensemble d'éléments comme ça, et après, il y a le ciment de sa langue, de son écriture.
On y vient dans un instant.
C'est ce qui est génial dans le complot contre l'Amérique.
Voilà,
particulièrement où il fait un travail de recherche sur ce qui aurait pu se passer, qui est extraordinaire dans la documentation.
Sur cette question de la documentation et d'écrire à partir de ce qu'il connaît, de ce sur quoi il a travaillé, c'est aussi ce qui a motivé, entre guillemets, l'arrêt de l'écriture chez lui, puisqu'il disait, l'Amérique, qui était quand même une de ses matières, de ses matériaux de base dans son œuvre, je ne la vois plus qu'à travers la télévision, donc je ne peux plus écrire sur l'Amérique. Et c'est en partie aussi pour cela qu'il a cessé d'écrire, c'est en tout cas ce qu'il disait à Nelly Capriélian dans Les Inrecuptibles, quand il a annoncé la fin, que Némésis serait son dernier roman.
Sur cette question du travail, du processus de création, Stephen Sampson.
Oui, aussi, en enchaînant sur ce que disait Elisabeth, il a déjà dit à 40 ans, je crois, que le problème pour le romancier américain, c'est que la fiction est tellement, la réalité est tellement ridicule et incroyable et grotesque en Amérique que ça dépasse les capacités des écrivains de fiction. Alors si déjà il disait ça il y a 40 ans, imaginez le problème aujourd'hui.
C'est ce qu'il disait, oui, dans cet entretien.
À propos du grotesque, il est dommage qu'il ait arrêté d'écrire avant l'élection de Trump.
Ouais. Il s'est exprimé à ce sujet dans le New Yorker, oui, dans une brève interview.
Il disait, Clémence Bloch parlait de la comparaison avec Lindbergh, quand on disait que le complot était un peu prémonitoire, mais il a dit dans une interview, il a dit la différence c'est que Lindbergh était intelligent.
Oui. Il avait quelque chose d'héroïque, voilà. En tout cas.
Il était intelligent par rapport à Trump, par rapport à la stupidité absolue qu'incarnait Trump, pour lui, il l'a dit plusieurs fois clairement.
Alors peut-être pour parler plus précisément quand même de littérature et d'écriture dans cette émission où nous rendons hommage ce soir à Philip Roth, parler quand même de... Il disait son grand plaisir d'après l'écriture, c'est de pouvoir lire. Et il lisait visiblement beaucoup, Philip Roth. On imagine qu'il a quand même lu aussi beaucoup avant et pendant son œuvre d'écrivain. Peut-être essayer de faire un tiercé, un quarté avec des noms importants dans son propre panthéon, Henry James, Shakespeare, Kafka, Tchekhov. Peut-être un premier tour du côté de Clémence Boulouk pour évoquer les totems de Philip Roth.
Oui, effectivement. Non seulement Philip Roth était un très grand lecteur de fiction, mais aussi de d'essais. Et il a été aussi, il a enseigné l'écriture des cours de creative writing et d'anglais, notamment à Princeton, dans différentes institutions. Donc, ce travail d'enseignement de l'anglais, de la littérature, était quelque chose qui était important. Il a été aussi tout à fait content de tourner la page, mais c'est quelque chose qu'il a ancré pendant des années. Et Kafka, évidemment, est une présence très forte. Cette façon qu'avait Kafka de faire de tordre la réalité pour qu'elle épouse la fiction et non d'être simplement dans le témoignage ou dans la prise de notes à partir de la réalité est quelque chose qui était aussi très important pour lui, c'est-à-dire établir le primat de la fiction et d'où ces doubles, cette multitude vertigineuse d'incarnation et de réincarnation qui en fait dépasse la réalité, la trompe et la rend la transcende en fait.
Alors, je propose un autre nom à la Darbytoon, peut-être celui d'Henry James.
Vous parliez de Henry James tout à l'heure. Oui, il a commencé par écrire, inspiré par Henry James, Thomas Wolfe aussi, comme tous les écrivains de son époque qui ont commencé à écrire. Mais il a aussi beaucoup bénéficié du travail de Saul Bellow, qui a commencé à publier en 43, si je ne m'abuse, son premier bouquin.
Donc une quinzaine d'années avant.
Une quinzaine d'années avant. Et au moment où Roth commence à publier, Bellow est déjà un écrivain installé et Bellow a déjà fait venir la littérature d'Europe centrale dans la littérature américaine. Elle n'y était pas du tout jusque-là. La littérature américaine était d'inspiration très britannique avec le folklore entre guillemets local, les grands écrivains du cru, mais l'Europe centrale, enfin l'Europe d'une manière générale, l'Europe, les Juifs n'étaient pas dans l'Amérique. C'est aussi ça. Bellow a fait rentrer les écrivains juifs dans la littérature américaine. Il y a eu des écrivains juifs avant Saul Bellow. Il y en a eu, je crois, le premier, c'était vers au début du XXe siècle. J'ai oublié son nom d'ailleurs. Ludwig Lewison, voilà. Premier romancier américain dans les années 20. Mais cette littérature-là est restée confinée à un milieu très fermé. Et Bellow l'a fait exploser. Et Malamud aussi. Il a eu un rôle assez important. Et Roth... Alors, on les a appelés le trio, Hart, Schaffner et je ne sais plus qui. Voilà, et Marx, de la comédie musicale, qui sont de la littérature. Ils ne sont pas tous les trois du même niveau. Il avait, je crois, beaucoup d'admiration pour Saul Bellow, sans aucune discussion. Il avait une certaine admiration pour Malamud, sans doute. Et je crois qu'il est très largement de leur niveau à tous les deux.
Notre nom peut-être,
oui, Steven Samson. Les grands noms sont là, mais peut-être Kundera. Il avait beaucoup d'admiration pour Kundera.
Rencontre très importante.
Ils étaient très amis.
Oui, on peut peut-être revenir sur cette question de l'Europe centrale, d'ailleurs, et de la Tchécoslovaquie en particulier, parce que je ne sais pas si on connaît bien ça. Ce qu'il a fait est assez extraordinaire à ce moment-là. Vous savez qu'il arrive en 72 à Prague, en vacances d'ailleurs, je crois. Oui. Et puis, par des rencontres, il découvre l'intensité de la soumission totalitaire, notamment des écrivains. Il découvre la dissidence. Et à partir de ce moment-là, il agit. On n'a pas tellement l'idée d'action politique en tête quand on pense à lui. Pourtant, il a agi et courageusement. Il a monté à ce moment-là, à partir de 72, un système avec des amis écrivains américains pour donner de l'argent à une quinzaine d'écrivains dissidents tchèques. Ils arrivaient par des systèmes très compliqués, il a raconté ça de manière assez drôle, à faire passer cet argent de l'autre côté du rideau de fer. Il a fait ça pendant des années. Il allait chaque année de 72 à 77 là-bas, en Tchécoslovaquie à l'époque. Et en 77, il se fait arrêter. Il fuit à ce moment-là. Il est interdit de séjour en Tchécoslovaquie. Il ne reviendra qu'après la chute du mur, après 89. Et c'est en étant chassé de Tchécoslovaquie qu'il fonde la collection que Clémence Boulouk évoquait, qui s'appelait « Écrivain de l'autre Europe ». Et ce qu'il a fait là-dedans, chez Penguin, je crois, est assez extraordinaire. Il a publié Kundera, il a publié Danilo Kish, il a publié Bruno Schulz, par exemple. C'est Gombrowicz. Enfin, il a été aussi un homme d'action et, en l'occurrence, un éditeur et un passeur d'une littérature très importante que ses concitoyens, à ce moment-là, ignoraient en grande partie. Donc, il a été aussi extraordinaire là-dedans.
Elisabeth Philippe.
Non, simplement pour revenir sur ce que disait Lazare Bitoun sur le peu d'écrivains, voire l'absence d'écrivains juifs américains avant Saul Bellow. Il me semble que Philippe Ross disait d'ailleurs que lui n'avait pas eu de modèle de personnages juifs dans la littérature à laquelle il avait eu accès. Et ça a certainement joué dans la place que la judéité a tenue dans ses romans. Et parmi les modèles que l'on citait, il y a également, je pense, Isaac Bashevis-Singer, qui figure également dans les rencontres rassemblées dans ce fabuleux recueil de textes qu'est « Parlons travail ».
Peut-être dire aussi un mot de la langue. Alors, on a la chance d'avoir un des traducteurs de Philip Roth avec vous, Lazare Bitoun. Parce qu'on l'a dit, il y a une multiplicité des livres de Philip Roth. Qu'est-ce qui fait à la langue anglaise ou à la syntaxe ou qu'est-ce qui est particulier pour vous?
C'est pas de l'anglais, c'est du new-yorkais.
Déjà.
Il n'écrit pas en anglais, il écrit en new-yorkais. Alors, il se trouve que c'est une langue que je connais très bien parce que j'ai vécu un peu à New York. J'y vais très souvent et j'ai énormément d'amis qui ont l'âge ou avaient l'âge de Philip Roth, dont les parents étaient marchands d'assurance ou courtiers à Newark ou à New York ou à Boston ou à Chicago, mais tout ça, c'est le même milieu. Et qu'ils étaient tous plus ou moins écrivains, profs de fac, etc., etc. Et ils parlent exactement comme ça. Donc, j'ai traduit mon premier bouquin de Roth tout à fait par hasard. Son éditrice m'a demandé est-ce que vous feriez un bouquin de Roth. J'avais jamais rien traduit comme livre. J'avais traduit des petits articles à droite à gauche, mais jamais de bouquin. J'ai dit Philip Roth, je veux bien. Et pour moi, c'est une langue qui m'est venue tout à fait naturellement.
Vous n'avez aucun mérite, Lazare Bitoun.
Absolument. Absolument. Je n'ai aucun mérite.
C'était lequel, le premier que vous
avez dit? C'était Shylock.
Pas mal pour commencer dans le métier
c'est pas mal,
de traducteur.
Pour commencer une carrière de traducteur. c'est pas mal.
On a fait ça.
Ça m'a été facile. Voilà.
Question d'Elisabeth.
Non, il y a quand même le yiddish aussi qui est très présent dans la plupart de ces textes.
Que j'ignore totalement, puisque moi-même, je ne suis pas du tout de cette persuasion-là, comme on dit. Je viens d'Afrique du Nord, mais j'ai en France pas mal de copains qui parlent le yiddish. Et je peux vous raconter une anecdote à ce sujet, très brève. Dans Shylock, je crois, il est question d'un passage qui dit à un autre « Ne nous en fais pas un tzimus ». Et le tzimus est un plat de carottes. Alors j'avais demandé à un de mes amis d'origine d'Europe centrale qui me dit « j'ai des carottes avec des raisins secs ». Et Roth avait demandé à voir le glossaire que j'avais mis à la fin de son bouquin. Et lorsqu'il a vu la recette, il m'a dit « c'est pas avec des raisins secs, c'est avec des prunes sucrées. Ma mère le faisait avec des prunes sucrées. Dans mon livre, la recette, c'est avec des prunes sucrées. »
Voilà qui est précis. Stephen Sampson, oui, cette langue de Philip Roth.
Je suis d'accord avec Elisabeth. L'yiddish était très important. C'est au début, plutôt les premiers livres, surtout dans Portnoy. Et après, ça a évolué un peu dans la trilogie Zuckerman, la première trilogie, qui est l'écrivain des fantômes et Zuckerman déchaîné, c'est ça le titre?
Délivré.
Et la leçon d'anatomie, c'est une langue très ironique, très minimaliste. Et puis, de nouveau, c'est plus baroque dans Shylock, très bien traduit par Lazare. Et puis, dans la tétralogie à la fin, c'est de nouveau très minimaliste, mais pas avec l'ironie de la trilogie Zuckerman, mais avec une sorte de... C'est quelque chose de stoïque et tragique, très limpide. Donc, il a plusieurs langues. Et juste une anecdote avec les liches. Moi, quand j'ai rencontré Roth, pour ses 80 ans, il y avait une grande fête et il y avait une queue. Et quand je lui serrais la main, il m'a dit, ah, you're the guy who's been hacking my Chanuk. C'est toi le type qui n'arrête pas de me chercher. Donc, il dit que j'étais très présent dans sa conscience.
Clémence Boulouk, sur la question de la langue de Philip Roth.
Le Yiddish est quasiment une sorte de D-book, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui habite l'œuvre et qui est très présent. Il aimait bien, d'ailleurs, jurer en Yiddish ou vous appeler d'un nom ou d'un autre en Yiddish. Et cette ironie, en fait, parce que c'est plus qu'une langue, c'est une langue monde, l'ironie, cet aspect, oui, cette moquerie est quelque chose d'assez sensuel en même temps dans la langue, quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les premiers textes. Comme Stephen Sampson le disait, les derniers textes, le fait que Némésis soit un nom grec et qui est quelque chose de... la dernière image, c'est ce javelot envoyé vers le ciel. Il y a quelque chose qui est un stoïcisme et un au revoir, en fait, dans un certain sens. Mais le Yiddish est véritablement une présence dans son quasiment un personnage, en fait.
Dans un des textes de ces explanations, explications qu'il a écrit, il a fait se rencontrer Saul Bellow et Aaron Appelfeld. Et il a organisé un repas, ils ont déjeuné tous les trois, et Appelfeld et Bellow se sont mis à parler en Yiddish. Et lui, il était absolument ravi, époustouflé. Voilà. Et le repas s'est déroulé en Yiddish. Ouais. Il avait adoré ça.
Langue vivante. Peut-être une question pratique, comme on s'achemine déjà vers la fin, pas tout à fait, de cette émission. Il y a des auditrices et auditeurs de France Culture qui n'ont jamais ouvert un livre de Philip Roth. Par quoi est-ce qu'il faut commencer? Allez, on fait un tour de table. Et c'est Florent Georgesco qui a perdu et qui commence, donc les autres ont le temps de réfléchir comme ça.
Nos auditeurs devraient faire exactement comme vous, piocher au hasard.
C'est une bonne réponse.
Franchement, je ne sais pas. Je ne vois pas.
Est-ce qu'il y a une porte d'entrée plus évidente qu'une autre?
Peut-être.
Ah, Lazare Bittrus,
moi, je dirais réfléchir. Les nouvelles.
Ah.
Les premières nouvelles. J'adore les nouvelles de Goodbye Columbus. Je trouve qu'elles sont très très bien
écrites.
Vous
disiez, Elisabeth
Philippe ? Non, je dis qu'ils sont peut-être les moins lues en plus en France. Doute,
absolument, vous avez tout à fait raison. Je trouve que chacune de ces nouvelles est parfaite, que c'est tous les romans de Roth qui vont venir après sont déjà dans ces nouvelles d'une manière ou d'une autre. Et c'est là qu'on voit son écriture. Et il n'est pas encore devenu cet écrivain extrêmement habile qu'il va devenir. Et je trouve que c'est un merveilleux livre pour commencer. Et il ne faut pas lire Sabbath avant d'avoir lu Portnoy.
Ah, bah moi, j'ai commencé par Sabbath.
Ah bon, bah, ça vous empêche
pas. Et ça s'est bien passé.
Ça s'est bien coué.
Oui, parce que je pense que quand on ouvre... Je vous raconte tout, Ali.
Allez.
J'avais, je pense, 16-17 ans. Et bon, le théâtre de Sabbath comporte quand même des scènes assez sexuellement explicites. Et j'ai, sans faire de mauvais jeu de mots, c'était vraiment une décharge dionysiaque avec des outrances verbales et des scènes que l'on n'oublie pas. Voilà.
Oui, bon.
Et personnellement, c'est ce qui m'a ouvert les portes de Roth. Ça ne m'en a pas dégoûté. Donc je pense qu'on peut... Parce que ce que vous disiez, c'est un livre qui contient... Déjà, mais comme tous ces livres, parce qu'à chaque fois, ce sont des livres d'une très grande complexité. C'est exactement ce que disait Florent tout à l'heure. Donc, c'est à la fois cette dimension extrêmement sexuelle et en même temps, la hantise de la mort. Tout y est. Donc,
Alors, Florent Georgesco a trouvé notre réponse. Là.
Non, je me disais simplement que la manière dont le public français a procédé jusque-là peut valoir pour tout le monde. Par exemple, on peut commencer par des livres qui sont peut-être plus directement abordables, comme La Tâche.
La Tâche,
qui
était un de ses plus grands succès
en France, et qui est un livre génial. Un
livre extraordinaire.
Où je pense qu'on a beaucoup, une large partie de la gamme de Roth. C'est drôle, c'est vivant, c'est très excitant intellectuellement sur la situation contemporaine. En plus, c'est un livre plus récent, qui parle de certains aspects de notre monde contemporain, sur le politiquement correct et des questions comme ça, sur le trouble identitaire, sur une moquerie chez Roth de ce qu'est la passion de l'identité. Nous avons publié juste ce matin, on a publié un très bel article dans Le Monde de Marc Weizmann qui a écrit ça ce matin en apprenant la mort de Roth dont il était très proche. Il a écrit des choses magnifiques sur l'explosion de la question identitaire, de cette obsession, de ce raccord identitaire dans lequel nous sommes et que Roth fait exploser de manière systématique dans tous ses livres et dans La Tâche en particulier, avec, je crois, une efficacité en plus romanesque qui peut attirer beaucoup de gens.
Une courte réponse de Clémence Boulouk.
Oui, Pastorale américaine, je pense que c'est aussi un livre qui est extrêmement puissant, qui pose aussi toutes les questions que Philip Roth se posait sur... Alors, il y a l'identité dans la tâche, la question de l'idéologie et des engagements mortifères aussi dans Pastorale américaine, et puis hélas, le complot contre l'Amérique qui, malgré toutes les mises en garde pour les parallèles avec l'Amérique d'aujourd'hui, est vertigineux.
Et enfin, Stephen Thompson.
Moi, je dirais Portnoy, non, sans hésitation. Déjà, il y a le yiddish, il y a la psychanalyse, il y a ce dévoilement des secrets de la tribu, et puis il y a tous les autres thèmes aussi. Il y a le langage baroque, il y a l'excès, il y a la confession, il y a la sexualité. Et puis, en plus, c'est contre Portnoy qui a construit la trilogie dans les années 80.
Allez, dernier mot,
il ne faudrait pas oublier que la tâche, dans la tâche, on a un personnage qui est noir et qui se fait passer pour juif pour être acceptable. Et ça, c'est extraordinaire.
Mais vous avez encore dit le gâcher pour le lecteur qui ne l'avait pas encore lu.
Vite, quand même.
Ah, bah oui, mais
ça ne gâche pas la lecture.
Bon, allez, ne réécoutez pas cette émission en podcast sur la fin, mais vous pouvez l'écouter pour les siècles des siècles. Et puis, on pourra lire à la rentrée, moi, Philip Roth. Ce sera chez Pierre Guillaume Deroux, Stephen Thompson. On est curieux de voir ce qui se cache dans ce livre d'un auteur qui connaît si bien son sujet. Bon, ça sera encore un autre Philip Roth.
Merci
comme
beaucoup.
Ça, il n'a jamais fini d'être avec nous. Et puis, comme le comité Nobel a décidé qu'il n'y aurait pas de prix Nobel littérature en 2018, ben voilà.
Il s'est bien organisé, finalement.
Il est pour Philip Roth, ça paraît tout à fait évident. Merci à tous d'avoir répondu présent pour rendre hommage ce soir à Philip Roth. Merci à Elisabeth Philippe, à Clémence Boulouk, à la Zarbitoun, Stephen Thompson et Florent Georgescu. Alors, le jeu de la dispute, Camille André nous a rejoint. On va faire juste le jeu de ce soir, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. On fait gagner ce soir des invitations pour Manifesto. C'est un film de Julien Rosenfeld avec Kate Blanchett qui est sorti en salle. Camille.
Eh bien, avant d'être un long métrage, sous quelle forme Manifesto était-il présenté au public?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, franceculture.fr, où un grand dossier est évidemment consacré à Philip Roth. On se retrouve demain à 19h pour une émission consacrée à la littérature. Il y aura même dedans Florent Georgescu qui va dormir ce soir à la maison de la radio. Vous serez avec... il y a un lit de camp dans le bureau. Avec Lucille Comeau et Jean-Christophe Brianchon, on parlera de Un œil en moins de Nathalie Quintane, du Baron Perché d'Italo Calvino, nouvelle traduction de Martin Rueff chez Gallimard, et puis Qui a tué mon père d'Edouard Louis.